Simone questionne, par Claude Léa.
L'émission prospective et incitative qui laisse gambader les animaux et gamberger les cérébraux, à moins que ce soit le contraire. Bonjour Alexandre Becker.
Bonjour.
Alors vous êtes déjà rencontré à Dijon comme bibliothécaire, comme co-metteur en scène du théâtre Ispoug. Vous avez aussi exposé à l'hôpital de la Chartreuse.
Oui.
On va dire que vous avez plus d'une plume dans votre carquois.
on peut le dire de cette façon.
Bibliothécaire.
Également, pendant une dizaine d'années. Et puis je me suis progressivement déconnecté du monde de la bibliothèque pour écrire et puis pour faire du dessin.
Dessin, écriture aussi.
Oui.
Et pourtant, j'ai lu quelque part que vous n'aviez pas de formation artistique.
Oui, c'est exact. Oui, mais j'ai toujours dessiné depuis l'enfance. Et puis, mais bon, pendant longtemps, je dessinais une ou deux fois par an. Et puis, récemment, j'ai eu envie vraiment de m'engager à fond, d'élargir la brèche d'une certaine manière.
Ah ben, qu'est-ce qui a fait que... En 2013, vous avez pris la décision de vous consacrer entièrement à vos activités artistiques. C'est courageux comme choix, ça.
Il y a des raisons conjoncturelles. Ça m'est devenu possible, tout simplement, financièrement.
Financièrement possible,
voilà.
Ouais.
D'une certaine manière, il y a une partie de nous qui est un peu comme un fantôme, je crois, qui est présent, mais qui est invisible. C'est une situation assez confortable. Parce qu'on est d'une certaine manière vu par personne, mais ça peut être un peu aussi douloureux parce qu'on a l'impression d'être coupé du monde des vivants, disons. On vit un peu dans un temps mort et je pense que j'ai eu envie de prendre ça à bras-le-corps, de donner un peu une existence au fantôme, enfin de le sauver.
D'accord, c'est-à-dire que le fait de ne pas aller travailler à la bibliothèque, par exemple, tous les jours, etc., ça coupe un peu du monde...
Non, ça c'est simplement que quand on se lance dans la fabrication de ces images, on a besoin de conditions matérielles.
Oui, c'est
et,
ça.
Et, ouais. le fait d'avoir travaillé en bibliothèque m'a montré aussi à quel point la discipline, la rigueur est importante, sans compter l'exemple de gens que je connais qui sont artistes et qui sont des gens tous très disciplinés.
Oui, bien sûr. Il faut se mettre au travail tout seul, sans quelqu'un.
Exactement, et le monde n'a pas besoin de vous.
Ouais, exactement.
Il n'a pas besoin de vos images, donc on est tout seul à porter ça à bout de bras.
Et vous avez choisi de présenter un choix de gravure maniériste du fonds patrimonial de la bibliothèque de Dijon. Alors, c'est vos découvertes que vous avez faites quand vous étiez bibliothécaire?
Ah non, pas du tout. On m'a d'abord invité à exposer mes encres, donc il y a une quinzaine d'encres, donc de dessins, dans les deux sites. Et puis on m'a demandé aussi de sélectionner des œuvres dans le fond iconographique de la bibliothèque.
Ah oui.
D'ailleurs, il n'y a pas que des œuvres maniéristes. Il y a des œuvres de Dürer, ça va jusqu'à Goya. Il y a même un très beau dessin de Aloysius Supertram, qui est rarissime. Mais il se trouve que... Donc j'ai fait des choix purement intuitifs. Ce sont toutes des gravures que je trouve très belles. Mais il se trouve qu'il y a une large part qui relève du maniérisme, et spécifiquement du maniérisme flamand.
Mais alors, en fait, là, j'en suis bouche bée, parce qu'il y a tellement d'écho entre les œuvres qui sont présentées et ce que vous avez créé, que j'ai eu l'impression qu'il y avait une influence. Eh bien non, c'est...
Non, pas du tout. Alors,
c'est
y a
le choix,
une gravure,
en fait, qui a été influencé.
Oui, tout à fait.
Oui.
Mes choix étaient purement intuitifs, d'ailleurs. J'ai fait ça de manière très, très artisanale. Disons, je regardais les gravures les unes après les autres. Il y en a une quantité folle à la bibliothèque. C'est une toute petite goutte d'eau de tout ce qu'il y a. Et voilà. Et il se trouve qu'effectivement, ça s'est organisé naturellement dans des sortes de foyers qui sont aussi les foyers vivaces de mes images, c'est-à-dire le visage, la présence du monstre ou du monstrueux, l'allégorie aussi, la manière dont les images, et notamment à l'époque du maniérisme, parviennent à donner à lire des sens à travers quelque chose de purement visuel.
Un maniériste, c'est quoi? C'est un gars qui fait des manières?
Oui, d'une certaine manière. Enfin, ça vient du terme maniera, qui veut dire à l'origine style. Et c'est, pour le dire vite, ce sont des artistes qui sont légèrement postérieurs à l'apogée de la haute Renaissance, c'est-à-dire 1520, la mort de Raphaël. et avant l'âge baroque, c'est-à-dire le début du XVIIe. Et ce sont des peintres qui héritent du vocabulaire de la Renaissance, c'est-à-dire l'importance du nu classique, et aussi les sujets mythologiques, mais qui, d'une certaine manière, au lieu d'être un art qui imite la nature, c'est un art qui imite l'art, qui ont pris l'art au second degré, qui le triturent. Et donc, c'est un art, c'est une forme de production qui a été longtemps critiquée, parce qu'on l'a considérée comme maniérée, justement, comme dégénérescente, exagérément chichiteuse, enfin, oui. Créant des fioritures, parce que c'est vrai que les corps sont plutôt déformés, les artistes mettent en avant leur virtuosité, très souvent, et puis même dans le cas des sujets mythologiques, c'est souvent le prétexte des allégories très compliquées, très savantes, parfois dont on a du mal à cerner le sens, si c'est un sens, je sais pas, érotique ou mystique, ou parfois sont même obscurs.
Oui, mais il y a des choses qui sont parlants pour tout le monde, même aux enfants. On connaît tous les portraits d'Arcimboldo, les portraits végétaux, les portraits des quatre saisons, qui sont faits avec des fruits, des légumes, des coquillages, etc. Bon, c'est un maniériste.
Tout à fait. C'est un maniériste de la cour de Rodolphe II de Prague. Ça, c'est un des foyers du maniérisme, qui a connu une diffusion européenne à partir de l'Italie.
Oui, donc tout n'est pas crypté, en fait.
Non, 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 bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir du XXe siècle, on a commencé à s'intéresser à nouveau au maniérisme. D'abord parce que ce sont de très très belles images, et il y a de vrais virtuoses, et il y a un grand plaisir à voir la virtuosité, par exemple, de quelqu'un comme Goltzius ou Sprenger. Et en plus, ce sont des images où il y a souvent ce sont des images très saisissantes.
Oui.
Très vivante qui sortent.
Surtout qu'il y a beaucoup de monstres, on va dire. Hein.
Beaucoup de monstres.
Il y a beaucoup de monstres, voilà. Vous êtes fasciné par les monstres, hein. Ça fait partie de votre bestiaire, pas familier. J'allais dire, il y a un petit côté lynchéen chez vous, avec un petit peu Len Frontman. Le monstre, il est humain, en fait. C'est nous qui sommes monstrueux, peut-être.
Oui, mais c'est aussi quelque chose de visuel. C'est-à-dire que le monstre, c'est un peu le moment où l'informe habite la forme, où la forme se laisse habiter par de l'informe. Et d'une certaine manière, c'est aussi on pourrait dire que c'est presque la définition de la peinture, de l'image. Quand on regarde un tableau ancien, par exemple, dans un musée, on voit une image, et en même temps, on est très conscient de la matière, de la fabrication. Ce qui fait la grande présence de la peinture, ce qui fait que toute peinture, même du XVIe siècle, nous est contemporaine, c'est qu'elle elle se fabrique, elle fabrique l'image devant nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose de monstrueux. C'est ce qui m'intéresse, moi, je crois que c'est l'émergence, c'est l'apparition. C'est pour ça que c'est le fait que la peinture soit gestation. On voit la chose se produire devant nos yeux.
Ce qu'on voit très bien, d'ailleurs, dans vos œuvres, parce que alors il y a donc ces gravures, et puis il y a aussi vos grands formats de dessins à langue de Chine. Mmh. Alors, langue de Chine, moi j'ai déjà essayé de faire du lavis à langue de Chine. C'est très très difficile, on ne peut rien retoucher.
On ne peut rien toucher, pas de gomme.
Pas de gomme.
Pas de retour en arrière.
Ouais,
on ne peut pas effacer ses pas.
Et c'est ça qui vous plaît?
C'est une discipline et j'aime les disciplines. Ce qui me plaît aussi, c'est simplement que par rapport au dessin, j'adore le dessin d'ailleurs. Le dessin, c'est merveilleux, c'est très doux, il y a une communication directe.
Vous dessinez sur vos cahiers quand
tout le temps. C'est pour ça que j'ai tout le temps toujours dessiné, même lorsque je faisais mes études, elles se sont remplies de monstres. Mais le visage, souvent le visage. Je crois que le visage, c'est pour moi le point focal parce que
visage défiguré.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est tellement naturellement expressif, un visage. Oui, l'encre de Chine, on ne peut pas gommer, on est obligé d'accepter ces accidents. On est en dialogue permanent avec la page.
C'est-à-dire que... Et alors, s'il y a une tache, qu'est-ce qu'on fait, en fait?
Oui, il faut y voir le début d'un nouveau dessin, d'une nouvelle image. Mais ça vaut pour les... Parce que j'ai un peu deux manières de faire. Tantôt, ce sont des images improvisées, tantôt, ce sont des images, au contraire, qui me viennent à l'esprit très précisément et que je cherche ensuite à reproduire comme un metteur en scène qui place pas ses acteurs. Et dans ce cas-là, les tâches sont problématiques, mais bon, je trouve un moyen de les dompter.
Oui, alors moi je trouve qu'il y a à la fois une fusion temporelle, parce qu'on sent toute votre culture dans vos dessins, en même temps... Vous êtes un grand illusionniste parce qu'on croit voir quelque chose et puis après on s'aperçoit que c'est autre chose qu'on voit. Hein. Et puis en même temps, ça prolifère de partout.
Oui. J'aime.
Il y a une influence quelque part pour cette prolifération ou ça jaillit comme ça ?
Non, ça m'est venu naturellement. Alors, j'aime les images proliférantes. Il y en a beaucoup effectivement dans l'art brut, comme chez Louis Souter, le cousin du Corbusier.
Vous vous définiriez comme un maniériste du XXIe siècle, avec une espèce de forme de la critique de notre société qui est à la fois proliférante, il y a une prolifération d'images, hein. Elle est pleine de mirages, elle est tourmentée, c'est un reflet.
On peut le dire, peut-être.
On peut le dire. Bon, et bon, on va le dire. Alors, j'ai assisté à l'un de vos commentaires de votre exposition. Quelqu'un vous a dit, vous commentez vos œuvres comme si ce n'était pas vous qui les aviez créées. On a l'impression que vous les découvrez. Et c'était exactement ça.
Oui.
Et ça nous a tous stupéfaits. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une façon de mettre à distance ce qui sort au bout de la plume, hein? Parce que justement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Il y a des tableaux qui font peur.
Oui. C'est peut-être aussi... Alors, ce qui est certain, c'est que j'aime que les images soient distantes. Soient d'une certaine manière derrière une vitre. Mais je pense que c'est aussi simplement une disposition naturelle. C'est que, curieusement, ce n'est pas l'imaginaire qui m'intéresse, c'est le réel. Mais le réel dans son émergence. Et peut-être que c'est une façon de toujours être comme si on était en train de le découvrir, le réel. C'est peut-être la position que je préfère.
Il y a bientôt une bande dessinée sous votre plume ?
Alors, c'est intéressant. Oui, comme j'écris, j'écris, mais j'ai toujours voulu garder séparées ces deux activités pour des raisons presque déontologiques. C'est que j'ai l'impression que chacune a ses propres exigences, son propre métier. Or, il se trouve que je vois maintenant un véritable effet de miroir entre les deux, parce que je mets en œuvre les mêmes procédés souvent, et je recherche dans les deux cas à créer un espace. Je crois que c'est vraiment l'espace qui m'intéresse, la possibilité d'explorer un espace infini, grouillant, ça c'est certain, et aussi les effets de collage, un peu le va-et-vient entre des effets de continuité, des choses qui se métamorphosent, qui passent d'un état à un autre, et en même temps des effets de coupure. Le collage crée des effets de coupure, il crée du vide, il crée des sortes d'images polyglottes, c'est-à-dire des images qui parlent en plusieurs langues. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et vous avez un site sur lequel on peut retrouver votre œuvre, http://alxnbakr. C'est un wixit.com, Alexandre Becker, avec deux K. C'est compliqué à dicter, hein, parce que, en fait, avouez-le, Alexandre Becker, vous êtes un homme secret.
Peut-être.
Merci, en tout cas.
Merci beaucoup.